Sans un mot, les deux hommes sortirent de l'appartement et coururent jusqu'à l'avenue. Rénine poussa Monsieur de Lourtier dans l'automobile. L'adresse.
Ville d'Avray.
Parbleu, au centre de ses opérations, comme l'araignée au milieu de sa toile. Ah, oh, l'ignominie! Il était bouleversé. Toute l'aventure lui apparaissait enfin dans sa réalité monstrueuse. Oui, elle les tue pour s'emparer de leur sommeil, comme elle faisait avec les bêtes. C'est la même idée obsédante, mais qui s'est compliquée de tout un attirail de pratiques et de superstitions absolument incompréhensibles. Il lui semble évidemment que l'analogie des prénoms avec le sien est indispensable et qu'elle ne se reposera que si sa victime est une Hortense ou une Honorine. Raisonnement de folle, dont la logique nous échappe et dont nous ignorons l'origine, mais auquel il lui est impossible de se soustraire. Il faut qu'elle cherche et il faut qu'elle trouve. Et elle trouve. Et elle emporte sa proie, la veille et la contemple pendant un nombre de jours fatidiques, jusqu'au moment où, stupidement, par ce trou qu'elle creuse d'un coup de hache en plein crâne, elle absorbe le sommeil qui la grise et lui donne l'oubli pendant une période déterminée. Et là encore, absurdité et folie. Pourquoi fixe-t-elle cette période à tant de jours? Pourquoi telle victime doit-elle lui assurer 120 jours de sommeil et telle autre 125? Démence. Calcul mystérieux et certainement imbécile. Toujours est-il qu'au bout de 120 ou de 125 jours, une nouvelle victime est sacrifiée. Et il y en a eu 6 déjà. Et la 7e attend son tour. Oh, monsieur, quelle responsabilité est la vôtre? Un pareil monstre! On ne le perd pas de vue! Monsieur de Lourtier-Vanneau ne protesta point. Son accablement, sa pâleur, ses mains qui tremblaient, tout prouvait ses remords et son désespoir.
Elle m'a trompé. Elle était si calme en apparence, si docile. Et puis, somme toute, elle vit dans une maison de santé.
Alors comment se peut-il?
Cette maison est composée de pavillons éparpillés au milieu d'un grand jardin. Le pavillon qu'habite Hermance est tout à fait à l'écart. Il y a d'abord une pièce occupée par Félicienne, puis la chambre d'Hermance et deux pièces isolées, dont la dernière a ses fenêtres sur la campagne. Je suppose que c'est là qu'elle enferme ses victimes.
Mais cette voiture qui porte les cadavres?
Les écuries de la maison de santé sont près du pavillon. Il y a un cheval et une voiture pour les courses. Hermance se relève sans doute la nuit, attelle et fait glisser la morte par la fenêtre.
Et cette nourrice qui la surveille?
Oh, Félicienne est un peu sourde, très vieille.
Mais le jour, elle voit sa maîtresse aller et venir, agir. Ne devait-on pas admettre une certaine complicité?
Oh non, jamais. Félicienne, elle aussi, a été trompée par l'hypocrisie d'Hermance.
Cependant, c'est elle qui, une première fois, a téléphoné tantôt à Madame de Lourtier pour cette annonce.
Tout naturellement. Hermance qui parle à l'occasion, qui raisonne, qui se plonge dans la lecture des journaux qu'elle ne comprend pas, comme vous disiez, mais qu'elle parcourt attentivement, aura vu cette annonce. Et ayant entendu dire que je cherchais une femme de chambre, aura prié Félicienne de téléphoner.
Oui. Oui, c'est bien ce que j'avais pressenti. Elle se prépare des victimes. Hortense morte, elle savait, une fois la quantité de sommeil épuisée, elle savait où trouver une 8e victime. Mais comment les attirait-elle, ces malheureuses femmes? Par quel procédé a-t-elle attiré Hortense Daniel? L'auto filait, pas assez vite cependant, au gré de Rénine qui gourmandait le chauffeur. « Marche donc, Clément! Nous reculons, mon ami !» Tout à coup, la peur d'arriver trop tard le mettait au supplice. La logique des fous dépend d'une saute d'humeur, de quelque idée dangereuse et saugrenue qui leur traverse l'esprit. La folle pouvait se tromper de jour et avancer le dénouement comme une pendule détraquée qui sonne une heure trop tôt. D'autre part, son sommeil étant de nouveau dérangé, ne serait-elle pas tentée d'agir sans attendre le moment fixé? N'était-ce point pour cette raison qu'elle demeurait enfermée dans sa chambre? Mon Dieu! Par quelle agonie devait passer la captive? Quel frisson de terreur au moindre geste du bourreau! Plus vite, Clément, ou je prends le volant! Mais plus vite, sacrebleu! Enfin, ce fut Ville-d'Avray. Une route sur la droite, en pente abrupte. Des murs qui interrompaient une longue grille. Contourne la propriété, Clément. N'est-ce pas, monsieur le gouverneur, il ne faut pas donner l'éveil. Où se trouve le pavillon ?
Juste à l'opposé.
Ils descendirent un peu plus loin. Rénine se mit à courir sur le talus qui bordait un chemin creux et mal entretenu. Il faisait presque nuit. Monsieur de Lourtier désigna...
Ici, ce bâtiment en retrait. Tenez, cette fenêtre, au rez-de-chaussée. C'est celle d'une des deux chambres isolées. Et c'est par là, évidemment, qu'elle sort.
Mais on dirait qu'il y a des barreaux.
Oui, il y en a, et c'est pourquoi personne ne se méfiait. Mais elle a dû s'ouvrir un passage.
Le rez-de-chaussée était construit au-dessus de hautes caves. Rénine grimpa vivement et mit le pied sur un rebord de pierre. Un des barreaux manquait, en effet. Il avança la tête contre la vitre et regarda. L'intérieur de la pièce était sombre. Cependant, il put distinguer, dans le fond, une femme qui était assise auprès d'une autre femme, étendue sur un matelas. La femme qui était assise se tenait le front dans les mains et contemplait la femme étendue.
« C'est elle ?»
chuchota Monsieur de Lourtier qui avait escaladé le mur.
« L'autre est attaché !»
Rénine tira de sa poche un diamant de vitrier et découpa l'un des carreaux sans que le bruit éveillât l'attention de la foule. Il glissa ensuite la main droite jusqu'à l'espagnolette et tourna doucement, tandis que de la main gauche, il braquait un revolver.
« Vous n'allez pas tirer ?»«
S'il le faut, oui !» La fenêtre fut poussée doucement. Mais il y eut un obstacle dont Rénine ne se rendit pas compte. Une chaise qui bascula et qui tomba. D'un bond, il sauta à l'intérieur et jeta son arme pour saisir la folle. Mais elle ne l'attendit point. Précipitamment, elle ouvrit la porte et s'enfuit en jetant un cri rauque. Monsieur de Lourtier voulait la poursuivre.
Oh !
À quoi bon ? Dit Rénine en s'agenouillant. Sauvons la victime d'abord. Il fut aussitôt rassuré. Hortense vivait. Son premier soin fut de couper les cordes et d'ôter le bâillon qui l'étouffait. Attirée par le bruit, la vieille nourrice était accourue avec une lampe que Rénine saisit et dont il projeta la lumière sur Hortense. Il fut stupéfait. Livide, exténué, le visage amaigri, les yeux brillants de fièvre, Hortense Daniel essayait cependant de sourire.
« Je vous attendais. Je n'ai pas désespéré une minute. J'étais sûre de vous. »
Elle s'évanouit. Une heure plus tard, après d'inutiles recherches autour du pavillon, on trouva la folle enfermée dans un grand placard du grenier. Elle s'était pendue. Hortense ne voulut pas rester une heure de plus. D'ailleurs, il était préférable que le pavillon fût vide au moment où la vieille nourrice annoncerait le suicide de la folle. Rénine expliqua minutieusement à Félicienne la conduite qu'elle devait tenir. Puis, aidé par le chauffeur et par Monsieur de Lourtier, il porta la jeune femme jusqu'à l'automobile et la ramena chez elle. La convalescence fut rapide. Le surlendemain même, Rénine interrogeait Hortense avec beaucoup de précautions et lui demandait comment elle avait connu la folle.
« Tout simplement. Mon mari, qui n'a pas toute sa raison, comme je vous l'ai raconté, est soigné à Ville-d'Avray. Et quelquefois, je vais lui rendre visite à l'insu de tout le monde, je l'avoue. C'est ainsi que j'en ai parlé à cette malheureuse folle, et que l'autre jour, elle m'a fait signe de venir la voir. Nous étions seuls. Je suis entré dans le pavillon. » Elle s'est jetée sur moi et m'a réduite à l'impuissance sans même que je puisse crier au secours. J'ai cru à une plaisanterie. Et de fait, n'est-ce pas, c'en était une. Une plaisanterie de démente. Elle était très douce avec moi. Tout de même, elle me laissait mourir de faim.
Mais vous n'aviez pas peur
de mourir de faim? Oh non, d'ailleurs, elle me donnait à manger de temps en temps par lubie. Et puis, j'étais tellement sûre de vous.
Oui, mais il y avait autre chose. Cette autre menace.
Cette menace? Laquelle?
Dit-elle ingénument.
Rénine tressaillit. Il comprenait tout à coup qu'Hortense, chose bizarre au premier abord, mais fort naturelle, n'avait pas soupçonné un instant, et qu'elle ne soupçonnait pas encore, l'épouvantable danger qu'elle avait couru. Aucun rapprochement ne s'était fait dans son esprit entre les crimes de la dame à la hache et sa propre aventure. Il pensa qu'il serait toujours temps de la détromper. Quelques jours plus tard, du reste, Hortense, à qui son médecin recommanda un peu de repos et d'isolement, s'en allait chez une de ses parentes, qui habitait aux environs du village de Bassicourt, dans le centre de la France.